16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter. Je suis ravi de vous retrouver, même si c'est vrai que cette saison je passe mes journées à l'Europe 1. Certains d'entre vous me demandent d'ailleurs, mais Mathieu, certes, tu es encore jeune et vigoureux, avec un corps exagérément musclé, mais comment fais-tu pour avoir ce tenu, ce punch, alors que cette année, en plus d'Historiquement Vôtre, tu te lèves à 5h du mat pour ta chronique dans la matinale? Eh bien c'est très simple, je prends de la drogue, une drogue qui s'appelle Stéphane Bern, et qui chaque après-midi, quand il arrive comme une fleur sur le coup de 15h50, 15h55, me rebooste pour l'émission.
Dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment.
Bonjour Stéphane, laissez-moi vous sniffer, c'est tellement bon.
Non, je vous en prie. Non mais. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Oui, c'est parti pour 2 heures d'histoire rieuse. Autour, comme d'habitude, de 3 personnages qui n'auraient jamais pu se croiser parce que d'abord, ils ne vivaient pas à la même époque, mais qui pourtant ont un point commun. Et aujourd'hui, un drôle de point commun. Celui d'avoir été déclaré mort avant de revenir à la vie. C'est bien ce qui est arrivé au militaire François de Civil, un huguenot qui s'est lancé dans la défense de sa ville en pleine guerre de religion et qui a été laissé pour mort après avoir été violemment agressé. Mais quelques jours plus tard, on va se rendre compte qu'il bouge encore. Puis, je vous raconte l'incroyable histoire de Rose de Valavieille, une comtesse du XVIIIe siècle morte et enterrée après un drôle d'accident. Sauf que, vous l'avez compris, enterrée oui, mais morte, elle ne l'était pas vraiment. Enfin Mathieu, votre personnage, le contemporain de l'étape, est bien vivant. Même si lui aussi a été déclaré mort.
Oui Stéphane, il s'appelle Gonzalo Montoya Jiménez. C'est un détenu qui a été déclaré mort non pas par un, non pas par deux, mais bien par 3 médecins différents avant de se réveiller pile avant son autopsie.
Caramba !
S'est-il évidemment exclamé puisqu'il est espagnol.
Et avec nous, comme chaque jour, elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour à tous, bonjour messieurs. Oui, il y a une actualité brûlante en fait autour de ceux qu'on croit morts et qui bougent encore. Parce que vous avez entendu parler de la polémique autour de Cendrillon, La Belle au bois dormant et Blanche-Neige. Bon, elles sont embrassées.
C'est une polémique que j'ai ratée là.
Vous avez raté, mais
qu'est-ce qui s'est passé?
MeToo.
Mais c'est la question, c'est est-ce que c'est un baiser consenti? Il y a un prince qui les réveille pour les réveiller, mais elles n'ont rien demandé. Alors moi, je ne veux pas prendre parti dans cet âpre débat, et je suis plutôt allée regarder qui avait inspiré la vraie Blanche-Neige. Et dans cette histoire, il y a 2 dames qui tiennent la corde, Maria Sophia von Hertal et Margareta von Waldeck. Vous verrez, 2 femmes qui ont existé, et on pense que toutes les deux ont inspiré Blanche-Neige.
Ça serait moins bien que Blanche-Neige.
Oui, mais c'est très...
Oh, Maria Sophia von Hertal.
C'est des Blanche-Neige peur classe. Avec nous, David Castello-Lopez.
Oui.
Bonjour David, vous remontez aux origines.
Tout à fait. Aujourd'hui, quelque chose que tout le monde connaît, je pense, c'est Wikipédia. L'encyclopédie en ligne. Comment on faisait avant pour écrire des choses?
C'est vrai.
Mais voilà.
On avait des grosses encyclopédies.
Exactement, oui. On avait des grosses encyclopédies. On allait à la bibliothèque, on touchait du papier. Maintenant, en tout cas, on commence ses recherches par Wikipédia. Et moi, je vais vous dire depuis quand ça existe.
Oui, on commence par Wikipédia, on approfondit après. C'est ça.
Voilà, exactement.
On se faisait refourguer 50 volumes d'encyclopédie universaliste par un vendeur ambulant.
Tout l'univers, il y avait des gens qui sonnaient chez mes parents.
Oui, voilà. Une question pour un champion, toute une époque.
Et puis Olivier Pouls est avec nous pour nous remonter aux origines d'une recette.
Oui, franchement, encore un grand débat à l'origine de la piperade. Est-elle béarnaise ou est-elle basque? Vous allez voir que
c'est pas
si
un débat qui est entêté sur Twitter, il faut le dire quand même. Mais c'est un débat qui visiblement vous passionne.
Mais je pense que ça peut passionner les gens, vous allez voir. Et la recette, évidemment.
Évidemment. Et puis nous jouerons, bien sûr, à Bern to be alive, ce jeu qui fait tourner en bourrique Stéphane. Même si franchement, ce début de saison, je dois avouer que je suis assez fier de vous.
Vraiment?
Bah non, t'as gagné qu'une seule voix. 1 fois sur 5, c'est pas ouf. Vos fans attendent plus de vous, Stéphane. Rendez-vous à 5h moins le quart. Mais d'abord, plongeons-nous dans l'histoire absolument incroyable de notre premier personnage qu'on croyait mort, mais qui bougeait encore. Stéphane Bern nous raconte le militaire François de Civil.
En cette toute fin du XVIe siècle, François de Civil, commissaire des guerres, signe un certificat administratif assez banal, à un détail près, sa signature justement. Sous son nom, souligné d'un geste assuré, il a écrit « Mort, enterré et ressuscité ». Un sceau vraiment très surprenant. L'histoire commence là où elle aurait dû s'arrêter. Nous sommes au mois d'octobre 1562, derrière les fortifications de Rouen. La ville, aux mains des protestants, est assiégée depuis 20 jours par les troupes catholiques de Charles IX, ou plutôt de sa mère Catherine de Médicis, car le petit roi n'a que 12 ans. la régente craint une alliance entre les réformés et les Anglais. Au pied des remparts, 30 000 soldats armés jusqu'aux dents espèrent s'emparer de la cité normande. La tension monte, on échange des tirs d'artillerie et, de part et d'autre, des hommes tombent. C'est d'ailleurs pendant ce siège que meurt le père du futur Henri IV, Antoine de Bourbon, touché par un coup d'arquebuse alors qu'il allait satisfaire un besoin naturel au pied des remparts, ce qui lui valut cette épitaphe ironique rapportée par Voltaire. « Ami français, le prince ici gisant, vécut sans gloire et mourut en pissant. » Mais revenons à notre homme, François de Civil. Un huguenot qui s'est lancé dans la bataille pour la défense de sa ville. À 25 ans, le capitaine commande une compagnie de 200 hommes. Le 15 octobre, sur le chemin de Ronde, il est touché par un tir de mousquet en pleine joue. Le choc est si violent qu'il tombe au sol. Les soldats qui l'entourent s'approchent et ne peuvent que constater les dégâts. La balle a traversé la mâchoire pour ressortir à la base du cou. Elle a arraché la moitié du visage du capitaine. La blessure est vraiment abominable et l'homme est immobile. Pour tous ces hommes de guerre, cela ne fait aucun doute. François de Civil est mort. Dans l'état de siège dans lequel se trouve la ville, on n'a pas le temps de s'occuper des cadavres. Alors, les arbalétriers prennent une décision terrible. Ils jettent le pauvre François de Civil par-dessus le rempart. Le corps vient s'écraser 20 mètres plus bas, dans le fossé, non loin de la porte Saint-Hilaire. À la nuit tombée, on recouvre le cadavre à la hâte avec d'autres de quelques pelletées de terre. Le lendemain matin, le fidèle valet de François de Civil, un certain Nicolas de la Barre, apprend la mort de son maître. Terrible chagrin pour cet homme qui le tenait en grande estime. Il veut pour lui une sépulture digne de ce nom dans le caveau familial et non pas dans une fosse commune en plein champ de bataille. Et tant pis s'il doit pour cela risquer sa vie en allant chercher le cadavre à portée de tir de l'armée royale. Le comte de Montgomery, qui commande la ville, est touché par le courage et la fidélité du domestique. Il lui offre l'aide de l'un de ses hommes. La petite équipe fouille le pied des fortifications, finit par découvrir une motte de terre fraîche. Deux corps y sont ensevelis que l'on déterre. Le valet ne reconnaît pas la figure de François de Civil. Il faut dire que la plaie et le traitement un peu dur qu'on lui a infligé, en plus de la boue qui a recouvert la dépouille, ne rendent pas les choses faciles. Convaincu qu'il ne s'agit pas de son maître, Nicolas de la Barre s'apprête à repartir. Mais au moment où le corps est à nouveau recouvert de terre, un coup de pelle fait bouger la main du défunt. De ses doigts s'échappe un diamant que le domestique reconnaît immédiatement. C'est celui de Monsieur de Civil. Le laquais emporte le corps. En le manipulant, il s'aperçoit qu'il n'est ni bien froid ni bien raide pour un cadavre. Pris d'un doute, Nicolas de la Barre s'arrête dans un hôpital de campagne à l'intérieur des murs de la ville. Mais personne parmi les chirurgiens, qui ont, c'est vrai, d'autres chats à fouetter, ne veut l'écouter. Alors le brave et fidèle serviteur ramène la dépouille à l'hôtel familial. Il le lave, le dorlote, et ce, malgré l'absence de réaction de François de Civil, qui reste sans parler ni remuer ni donner aucune marque de sentiment. Au cinquième jour, le valet, décidément très opiniâtre, réussit enfin à faire venir un médecin. Très pessimiste, celui-ci tente tout de même quelques soins et lui administre à la cuillère quelque peu de bouillon bien nourrissant. Et miraculeusement, le 22 octobre, une semaine après sa mort, François de Civil revient à la vie. Il prononce même quelques mots, mais demeure, on peut le comprendre, dans un état de confusion assez avancé. Manque de chance pour notre ressuscité, c'est aussi le moment que les catholiques choisissent pour entrer dans la ville. La prise de Rouen donne lieu à des scènes de pillage, de viol, de saccage. Des protestants sont tués, pendus. La demeure des civils, d'abord épargnée, est réquisitionnée par les vainqueurs qui s'approprient la chambre de François. Le pauvre blessé est transporté dans une petite chambre à l'arrière de la maison, au-dessus d'une écurie. Bien vite, c'est une autre bande qui investit la maison. Elle semble chercher le frère de François pour une querelle passée, mais tombe finalement sur notre capitaine, qui, par vengeance ou simplement parce qu'il s'agit d'un ennemi, est défenestré. Son valet ange gardien, Nicolas de la Barre, est tué. Un parent qui se soucie du sort du capitaine plusieurs jours après les événements, le voisinage répond que le pauvre maître est enseveli dans un tas de fumier depuis déjà plusieurs jours. Cette fois, c'en est bien fini de François de Civil. À moins que, dans son lit de fortune, Serait-il possible que l'officier bouge encore ? On imagine le pauvre soldat convalescent, dont les chances de survie étaient déjà maigres, gisant sur le tas de fumier. Il a passé là plus de 3 jours, sans boire ni manger, en chemise et en bonnet de nuit. On est en plein automne, il ne fait pas bien chaud dans les rues de Rouen la nuit. Quelle stupeur alors de le voir encore bouger faiblement la main et gémir qu'on lui donne à boire. On se hâte de lui apporter de la bière et du pain trempé dans de l'eau, car à force, son œsophage a rétréci. Pour éviter un nouvel assaut des catholiques, décision est prise d'évacuer le miraculeux en bateau, vers un lieu plus sûr, le château de Croisset, à environ 5 km de là. La convalescence dure près d'un an, au bout duquel François de Civil est bel et bien sauvé. De toutes ces mésaventures, le capitaine se tire avec une légère perte d'audition et un petit doigt invalide. Un bilan totalement inespéré quand on sait ce qu'il a traversé. Le rescapé connaît ensuite une vie bien remplie. Il se marie 2 fois, a 2 enfants. Dans les premières années du XVIIe siècle, on le retrouve en Angleterre où il mène, semble-t-il, des affaires diplomatiques pour le roi Henri IV. L'histoire familiale rapporte que la reine Élisabeth Ière rencontre même cet homme à la destinée si incroyable et lui offre un diamant en souvenir de celui qui un jour l'avait sauvé sous les remparts de Rouen. Avant sa mort, François de Civil prend soin de coucher son histoire sur le papier. Il n'est d'ailleurs pas le seul. Le poète protestant Théodore Agrippa d'Aubigné raconte qu'il a connu cette célébrité de la Renaissance et que Civil signait 3 fois mort, enterré et par la grâce de Dieu ressuscité. Cette mention d'une 3e résurrection est en fait une légende. La mère de François serait décédée juste avant d'accoucher et le bébé aurait été récupéré après l'enterrement, miraculeusement vivant. En réalité, sa mère eut encore 4 enfants après lui. François de Civil s'éteint finalement en 1610, à 73 ans. Il n'est enterré que 2 mois plus tard, sans que les documents n'expliquent ce délai inhabituel. Sans doute le temps nécessaire pour s'assurer cette fois de son véritable trépas.
Europe 1,
historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de François de Civil, nous sommes avec l'historien Nicolas Leroux. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Bonjour Nicolas Leroux, vous êtes historien, spécialiste des guerres de religion dans le Royaume de France. Vous avez d'ailleurs publié les guerres de religion dans la collection Que sais-je des presses universitaires de France. L'histoire de François de Civil est somme toute extraordinaire. Quelles sont les sources dont on dispose et qui nous relatent ces mésaventures qui sont, il faut bien le dire, dignes d'un roman ?
Alors effectivement, on dirait un personnage de roman d'Alexandre Dumas ou quelque chose comme ça, voire de Balzac. Mais bon, finalement, c'est une destinée de soldat. Prendre une balle dans la tête, ça arrive souvent. Ressusciter, ça arrive aussi, encore aujourd'hui. Plus aujourd'hui qu'au XVIe siècle, d'ailleurs, puisque la médecine est un peu meilleure. Ce qui est surtout impressionnant, c'est qu'il ait raconté son histoire, finalement. Parce que mourir, ressusciter, ça arrive. Et qu'il ait, toute sa vie, gardé le souvenir de cette expérience extraordinaire, avec, vous l'avez dit, cette espèce de signature étrange, un mort, enterré, ressuscité. Puisqu'il écrivait, effectivement, ça, sous sa signature. Et alors, il a écrit sa vie en 1606, il est âgé, il a presque 70 ans, et il dit qu'à la demande de ses amis, il a fini par mettre sur le papier ce qui lui était vraiment arrivé, parce que c'était une petite célébrité finalement pour ce qui lui était arrivé, même si par ailleurs c'est un personnage très très mal connu et secondaire. Mais il a écrit sa vie, il a écrit sa vie.
Mais justement, cette histoire de soldat protestant qui ressuscite 2 fois malgré les blessures atroces dont Stéphane a parlé, c'est aussi une façon d'affirmer que Dieu est du côté des protestants. Est-ce qu'à l'époque, l'histoire est reprise aussi parce que, par le camp des Huguenots pour légitimer leur foi ?
Alors, c'est un vieil homme en 1606, un vieil homme, il a presque 70 ans, au XVIe siècle, c'est un bel âge, et il est dédié, en fait c'est une sorte d'œuvre d'action de grâce ce texte, il remercie Dieu, hein, Dieu est à toutes les lignes, ses miracles, ses merveilles, et il doit à la fin de sa vie faire publiquement la preuve du miracle dont il a été, non seulement le témoin, mais l'objet, ça, on ne va pas dire que c'est un nouveau Jésus, mais en 1606, pour les protestants, réaffirmer qu'ils sont dans la main de Dieu, c'est important parce que il y a eu l'édit de Nantes en 1598, la tolérance accordée par Henri IV, mais les protestants deviennent des sujets un peu seconds dans la France du XVIIe siècle. L'édit de Nantes, c'est la tolérance, mais c'est aussi l'impossibilité pour le protestantisme de se développer. Les conversions se multiplient au catholicisme et donc pour un ancien capitaine, un noble protestant, dire que Dieu l'a sauvé, même plutôt 2 fois qu'une, c'est une façon de réaffirmer que les vrais chrétiens, ce sont eux.
Mais est-ce que sans ses morts à répétition, le nom de François de Civil, est-ce qu'il serait entré dans la postérité? Parce que, bon, est-ce qu'on sait si c'est vraiment illustré dans le siège de Rouen, militairement, on s'entend?
Alors, c'est un tout petit personnage. Hein, où en 1562, il a 25 ans. C'est une famille de notables. Hein, les civils, c'est une famille espagnole. Hein, ce sont des immigrés de la troisième génération. Enfin, lui, c'est le petit-fils d'un Espagnol installé à Rouen à la fin du XVe siècle et naturalisé. Ce sont des notables. C'est un milieu de magistrats. Hein, ils sont tous liés aux gens du Parlement. Donc, ce sont des gens aisés. Mais par ailleurs, c'est pas un grand soldat. Il devient soldat parce que c'est la ville qui se soulève en 1562 contre le roi. Et il fait la guerre comme protestant, mais par ailleurs, on ne sait rien de lui ou pas grand-chose. Il dit que Dieu l'a sauvé, mais enfin, il a mis quand même plus de 20 ans à se remettre, à se rééduquer. Il a perdu une oreille, il a une main qui ne marche pas bien. Il doit avoir le cou quand même un peu coincé, même s'il dit que ça va très bien à la fin. Et il part en mission en Angleterre, ça on le sait, effectivement. Enfin, surtout, il s'est exilé en Angleterre en 1586, hein, après que le protestantisme ait été interdit par Henri III en 1585. Il s'exile. Hein. Il part en Angleterre, pas pour son plaisir, avec sa famille, sa deuxième femme. Il rencontre Elisabeth, ça c'est sans doute vrai. Mais on n'en sait pas plus. Et après, il revient en France quand Henri IV devient roi en 1589. Il devient commissaire des guerres. C'est un emploi plus administratif que militaire. Hein. Il inspecte les troupes. Et il est envoyé par Henri IV en Angleterre pour lever des troupes anglaises, des troupes écossaises. Il revient en France avec ses troupes anglaises et écossaises. Mais par ailleurs, voilà, c'est on n'en sait pas plus.
Un personnage secondaire, finalement, mais illustre par sa mort et sa résurrection.
Alors, en 1562, quand Rouen est assiégé et que François de Civil échappe de peu à la mort, on l'a raconté, c'est le tout début des guerres de religion. Qu'est-ce qui exacerbe les tensions entre catholiques et protestants jusqu'à faire éclater une guerre?
Alors, en 1562, les protestants ont pris les armes en mars 1562, après que les catholiques, pour simplifier, aient manifesté des formes d'intolérance assez fortes. Alors la reine-mère Catherine de Médicis, hein, puisque le roi est tout petit, Charles IX, a, en janvier 62, imposé pour la première fois un édit de tolérance. Pour la première fois, le premier édit de tolérance de l'histoire de France, c'est janvier 62, mais il n'est pas appliqué parce qu'il y a un coup de force de prince catholique, le duc de Guise étant le plus célèbre, qui font en sorte que les choses ne puissent pas s'appliquer. Il y a un massacre, le massacre de Vassy au début du mois de mars 62, et ça entraîne un enchaînement de prises d'armes, et donc une prise d'armes de protestants menée par le prince de Condé, qui prennent les grandes villes, Orléans, Tours, Bourg, et Rouen en avril 1562, puis Lyon, puis Grenoble. Et l'armée royale va tenter à plusieurs reprises, une fois au printemps et puis à l'automne, en octobre, de reprendre cette grande ville.
Mais justement, si Rouen est assiégé, c'est parce que la reine régente, Catherine de Médicis, craint que les protestants de Rouen ne s'allient avec les réformés normands et puis surtout les Anglais. Quelles auraient été les conséquences d'une telle alliance?
Alors Rouen, c'est un port, c'est une grande ville, c'est la deuxième ville de France, Rouen, au milieu du XVIe siècle. Hein. 20% de la population, à peu près 15 000 personnes sont protestantes hein, sur 75 000. La Normandie, c'est dans la France du Nord la région où il y a le plus de protestants. Et puis c'est la porte de l'Angleterre. Alors cette alliance, elle a eu lieu en fait. Hein. Il y a un traité qui est signé à Hampton Court, le palais de la reine d'Angleterre, en septembre, et la reine d'Angleterre envoie des troupes qui arrivent au Havre, à Dieppe, hein, les deux grands ports normands, et puis quelques-uns vont réussir à s'infiltrer à Rouen pendant le siège au mois d'octobre. Donc c'est une trahison hein, aux yeux de la reine, c'est une trahison effectivement de la part des Huguenots qui ont cherché alliance auprès d'une protectrice étrangère. Et donc dans les guerres civiles françaises entre un deuxième élément, ça devient des guerres internationales d'une certaine façon. Le pape envoie des troupes, le roi d'Espagne du côté catholique enverra des troupes. Donc l'affaire s'internationalise immédiatement et il y a une guerre donc franco-anglaise qui va durer donc en 62-63 jusqu'à ce qu'il y ait un traité de paix en 64 qui va y mettre fin. Et les protestants donc ont donné en gage à la reine d'Angleterre le port du Havre. Hein, c'est une vraie trahison. La reine d'Angleterre a obtenu le Havre. Puis la reine d'Angleterre espère récupérer Calais. Le rêve de la reine d'Angleterre, c'est de reprendre Calais, qui a été anglais depuis la guerre de Cent Ans, que les Français ont repris en 1558. Donc c'est tout récent et ça a été pour les Anglais une épouvantable humiliation de perdre Calais, qui était leur porte d'accès sur l'Europe continentale. Et donc ils rêvent de Calais, ils ne l'auront pas.
Mais c'est vrai que la prise de Rouen, du coup, devient une prise de guerre capitale pour le camp catholique.
Alors, c'est, je vous l'ai dit, hein, c'est une grande ville, c'est une ville proche de Paris, hein, c'est sur la Seine, donc l'approvisionnement de Paris passe par la Seine en grande partie. On peut craindre que d'autres troupes anglaises n'arrivent, et donc on décide de faire porter un effort important. Alors, on a pris Bourges, il y a eu un siège avant sur Bourges, et ensuite on pense à la capitale protestante à l'époque qui est Orléans. Mais Orléans est bien défendu, donc avant Orléans, on veut prendre Rouen pour couper donc l'herbe sous le pied aux Anglais d'une certaine façon. Et c'est comme ça que se déroule ce siège terrible, hein, terrible, qui dure à peu près un mois et qui se termine le 26 octobre. Et c'est ce jour-là que le pauvre François de Civil passe par la fenêtre et tombe dans son tas de fumier où il va passer 3 jours et 3 nuits.
Alors, Orléans, Bourges, Rouen, comment on explique qu'à l'époque, il y a beaucoup de grandes villes qui sont protestantes? Pourquoi?
Alors, en 1562, toutes les grandes villes, pratiquement, tombent aux mains des protestants. Pas Paris, à Toulouse, ça a failli, mais ça ne s'est pas fait. Il y a eu une guerre, une bataille dans les rues, mais Lyon est protestante, Orléans, etc., etc. Rouen, parce qu'il y a dans les grandes villes une importante communauté protestante, un camp est majoritairement protestante. À Rouen, je vous l'ai dit, c'est à peu près 20% de la population, donc c'est une minorité active. Ce sont des notables, souvent, les magistrats municipaux, le conseil de ville, les magistrats, les grands magistrats. Il y a un parlement à Rouen. Donc le protestantisme touche, dans la France du Nord, plutôt les villes, plutôt les notables, les gens lettrés, socialement supérieurs à la majorité de la population. Et les villes sont tombées pratiquement d'elles-mêmes, en réalité, en 1562, en mars-avril 62, parce que les municipalités, les notables ont pris les armes pour le camp protestant.
On sent, au moment où François Civil a ses ennuis, si je puis dire,
ses petits pépins,
ses petits pépins de santé, est-ce qu'on sent que y a le ferment de ce qui va se passer 10 ans plus tard? En 1572.
La Saint-Barthélemy, oui, il y aura une Saint-Barthélemy à Rouen. Il y a deux moments de violence extrême, hein, dans ces guerres civiles qui durent pratiquement 40 ans. C'est 1562, justement, au tout début. Hein. Dans les guerres civiles, c'est au début que c'est le pire, en général. Et là, c'est vrai. Là, c'est vrai, en 1562, les sièges de villes sont terribles. Et puis, 10 ans plus tard, il y aura, on a cru que c'était fini, puis les guerres ont repris à plusieurs reprises. Catherine de Médicis a tout fait pour calmer les choses par tous les moyens. Puis, en 1572, une explosion, sans doute imprévue, hein, de violence. Paris, Rouen, Lyon, Toulouse, etc. Bordeaux, des massacres qui vont faire des milliers et des milliers de morts. Mais Rouen, octobre 1562, on peut estimer que dans la ville, c'est 4000 morts. Dans l'armée royale, à peu près 4000 aussi. Donc, 4000 morts, c'est plus que la Saint-Barthélemy à Paris. La prise de la ville, l'armée royale, on lui donne 24 heures pour saccager la ville, ce qui est normal. Hein. Quand on prend de force une ville au XVIe siècle, on prend et on saccage. Mais le sac va durer plusieurs jours. Les femmes, les enfants ne sont pas épargnés. Et puis, ce pauvre François de Civil, agonisant ou plutôt ressuscitant, manque mourir une deuxième fois. Par l'effet d'une sorte de vendetta familiale, hein, puisque vous l'avez dit, hein, ce sont des Normands catholiques qui voulaient tuer son frère et qui se sont vengés sur lui, alors que, dit-il dans ses mémoires, donc, il a d'abord été trouvé par une compagnie de soldats gascons de l'armée royale qui l'a très bien traité, mais qui ne lui a rien fait. Et puis ensuite, ce sont des bons Normands qui ont voulu se débarrasser de lui définitivement.
Merci beaucoup Nicolas Leroux. Je cite aussi votre dernier ouvrage, Portrait d'un royaume, Henri III, la noblesse et la ligue, disponible aux éditions Passé Composé. Merci.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qu'on croyait mortes et enterrées. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Pourtant, aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez qui serait la véritable Blanche-Neige, celle qui aurait inspiré le personnage de Walt Disney.
Eh bien oui, messieurs, parce que voyez-vous, après avoir été à la recherche du vrai Tintin, eh bien je m'intéresse en effet à Blanche-Neige. On se doute bien que la plupart des contes de fées ont un fond de vérité. Est-ce que les frères Grimm ont forcément un peu trouvé l'inspiration autour d'eux? Alors, dans le cas de Blanche-Neige, il n'y a pas une, mais deux femmes qui auraient pu inspirer les frères Grimm. Et la première est Maria Sophia von Hertal. Alors, Il y a beaucoup d'éléments troublants. En effet, elle vivait dans un château près de la ville de Lohr am Main, dans le nord de la Bavière, au milieu du XVIIIe siècle. Et c'était une très, très jolie femme. Donc, de ce point de vue-là, ça pouvait tout à fait faire l'affaire. Une très jolie femme morte en 1796. Dans le conte de Blanche-Neige, moi, je ne vais pas vous raconter Blanche-Neige, hein, elle échappe à sa méchante belle-mère qui est jalouse parce qu'elle est trop belle. Et alors, elle lui donne une pomme empoisonnée. Et sur ce, Blanche-Neige sombre dans un profond sommeil, mais ne meurt pas. C'est la caractéristique de vos personnages du jour. Bref, il l'embrasse, il la réveille, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, fin de l'histoire. Alors, ce qui est amusant, c'est que le père de Sophia von Herthal, en effet, s'est remarié. Il avait une seconde épouse assez horrible avec ses beaux enfants, si vous voulez. Laure, ça s'écrit L-O-R-H, à Maine. Le Maine, c'est une région allemande, c'est le M-A-I-N. Hein. Laure à Maine, c'est étrange à entendre sans doute. C'était un haut lieu de fabrication de verres et de miroirs. Hein. Et le père de Sophia von Herthal possédait justement une usine de verres et de miroirs. Doit-on rappeler à monsieur sur ma gauche qui connaît rien à ces classiques que la méchante belle-mère...
Elle se souvient même plus de mon nom, c'est dire.
La méchante belle-mère, non, c'est pas pour ne pas le répéter ad nauseam. Elle se regarde...
Ah, oh, la latiniste. Dès qu'elle peut en placer
bon,
une...
Hey, oh, les gars, je peux continuer mon histoire. La méchante belle-mère.
Les gars, alors, ça sera beaucoup plus simple.
Elle se regarde tous les jours dans un miroir, qui est la plus belle. Bon, ben voilà.
Je me souviens partout.
Donc, c'est quand même assez troublant, cette histoire. Le château de Sophia von Herthal était entourée d'une forêt immense, épaisse, inquiétante, comme dans le conte. Et non loin du coin de Bavière où se trouve son château, il y a en effet une mine qui employait des enfants parce que leur petite taille était très très adaptée pour se faufiler dans certaines galeries étroites. Et cette mine était accessible en traversant 7 collines, comme dans l'histoire. Enfin, argument le plus probant en faveur de Sophia von Herthal, c'est que Jacob et Wilhelm Grimm vivaient à 80 km de là. Donc ils ont pu entendre parler de la vie de Sophia, ils l'ont utilisé comme source d'inspiration pour leur conte. Alors, tous les ingrédients y sont, vous êtes d'accord. Hein,
oui,
bon, il y a quand même une nuance, c'est que la pauvre Sophia, elle n'a pas eu la fin heureuse de Blanche-Neige, elle a perdu la vue quand elle était jeune fille, et elle a vécu jusqu'à 71 ans. C'était quand même un âge avancé à la fin du 18e, mais elle est morte vieille fille dans un couvent. Hein. Alors, elle était sans doute loin d'imaginer qu'elle sera un jour une héroïne de contes de fées et l'une des plus connues au monde. Et elle a une pierre tombale. Et la pierre tombale de la baronne a récemment été offerte par une famille au musée diocésain de Bamberg, dans le sud de l'Allemagne. Donc, si vous voulez aller vous recueillir sur la tombe de Blanche-Neige, rien de plus facile. Il y a quand même une autre tradition qui dit que ça serait Margaret von Waldeck. Alors, elle vivait au XVIe siècle, aussi en Allemagne. Et son père possédait aussi des mines de cuivre où travaillaient également des enfants. Elle aussi perd sa mère, elle a une belle-mère. Mais elle fiche le camp aux Pays-Bas espagnols. Elle rencontre le futur Philippe II d'Espagne qui tombe amoureux d'elle. Mais comme elle est luthérienne, il ne peut pas l'épouser. Et donc le roi d'Espagne, Charles V, désapprouvant ce projet de mariage, aurait envoyé ses hommes de main empoisonner Margaret afin d'éviter cette union contre nature. Et la malheureuse Margaret, elle meurt à 21 ans en mars 1554. En tout cas, si vous allez voir à Bamberg la tombe de Blanche-Neige, vous pouvez aussi aller voir l'ancien village minier, désigné comme étant celui des sept nains. Il s'appelle de le jour Schneewittchendorf, ce qui signifie village de Blanche-Neige. Et c'est un endroit où, comme dans le conte de fées, les enfants travaillaient, étaient par groupes de 20 dans des petites maisons. Alors, écoutez, voyez-vous, j'ignore si le baiser qui réveille Blanche-Neige est ou non consenti. Mais au moins, les frères Grimm ont-ils imaginé un destin plus heureux pour Blanche-Neige que celui de Maria Sophia von Herthal, morte aveugle et vieille fille dans un couvent, ou que Margaretha von Waldeck, qui elle meurt carrément à 21 ans sans avoir jamais connu la mûre.
Merci Clémentine.
Je crois que nous avons été
édifiés.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Depuis plus d'un an maintenant, Stéphane Bern n'a qu'un rêve, un rêve un peu fou, certes, mais qui est devenu sa raison de vivre.
Christianiser tout l'Empire.
Non, Stéphane, je vais parler de votre deuxième rêve. Le deuxième. L'emporter, pour une fois, à la loyale, dans Bern to be alive. Qui sait, le grand jour est peut-être arrivé. Jouons à Bern to be alive avec une surprise de taille aujourd'hui. Vous me l'avez demandé, c'était une requête
Vous m'avez demandé qu'on commence par Clémentine. Ah oui. Nous allons commencer
par
Clémentine.
Surprise.
C'est ça ma surprise, ça s'appelle l'art du teasing. Faire rester les gens pour rien. Question numéro 1 pour vous, Clémentine. La comptine au clair de la lune date du 18e siècle. Avant d'être une chanson sage, c'était une chanson paillarde, ça vous le saviez peut-être. Mais saviez-vous qu'il existait une version qui s'appelait « Au clair de ta lune » ? Elle a été modifiée pour être chantée par le plus grand nombre, vrai ou faux ?
Alors, il y a une légende très jolie qui circule sur cette chanson, c'est qu'elle aurait été composée au château de Saint-Fargeau, au clair de la lune. Et c'est en effet une chanson érotique, hein, « Je n'ai plus de feu, ouvre-moi ta porte ». Bref, est-ce que au clair de ta lune, ça pourrait avoir été le cas, mais beaucoup plus tardivement, j'imagine, puisque la lune c'est les fesses, donc pourquoi pas. Donc la question c'est est-ce qu'elle a été modifiée plus tard
pour être chantée par le plus grand nombre, oui, effectivement.
Est-ce
qu'elle s'appelait au clair de ta lune?
Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ça, je crois que c'est un truc comme ça. Oui, écoutez, non.
Vous avez gagné.
Vous m'avez scié parce que vous avez donné la bonne réponse. Ensuite, la question était piégeuse. J'ai cru que vous allez malgré tout tomber dans le piège en répondant en vrai. C'était faux, effectivement. En revanche, il y a beaucoup de sous-entendus sexuels, comme vous nous l'avez dit. Ainsi, ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu, serait une métaphore évoquant une érection défaillante. On n'a jamais connu ça, je ne sais pas, je ne peux pas témoigner. Question numéro 2 pour vous, Stéphane. Entre 1943 et 1944, deux hommes s'écharpent sur les ondes. Pierre Dac, sur la BBC, et depuis Radio Paris, le sympathique Philippe Henriot, secrétaire d'État à la propagande de Vichy.
Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand.
Ce dernier avait pour habitude de donner les adresses des personnes de la famille de Pierre Dac à la radio pour inciter les bons Français à les intimider. Vrai ou faux ?
Terrible, ça.
Il y a cette célèbre passe d'armes là où il évoque son frère tombé à Verdun quand l'autre l'accuse de ne pas être un bon Français. Mais est-ce qu'il serait allé jusqu'à donner les adresses de sa
adresses,
famille
les adresses.
Non, ça paraît fou.
Vous répondez faux.
Ouais.
Vous avez gagné.
Et c'est une bonne réponse. Il n'a pas donné les adresses. En revanche, Philippe Henriot avait pris pour habitude de donner le vrai nom de Pierre Dac, André Isaac, et celui de son père, Salomon Isaac. Pierre Dac a répliqué en disant: puisque vous avez cité au cours de votre laïus me concernant le nom et prénom de mon père et de ma mère, laissez-moi vous dire que vous en avez oublié un, celui de mon frère. Je vais vous dire où vous pourrez le trouver. Si d'aventure, vos pas vous conduisent du côté du cimetière Montparnasse, entrez par la porte de la rue Froidevaux, tournez à gauche dans l'allée et à la 6e rangée, arrêtez-vous devant la 10e tombe. C'est là que reposent les restes de ce qui fut un beau, brave et joyeux garçon, fauché par un obus allemand le 8 octobre 1915 aux attaques de Champagne. Voilà, monsieur Henriot, je le répète, ce que ça signifie pour moi la France. Sur votre tombe, si toutefois vous en avez une, il y aura aussi une inscription. Elle sera ainsi libellée. Philippe Henriot, mort pour Hitler, fusillé par les Français. Bonne nuit, monsieur Henriot, et dormez bien. Si vous le pouvez. Ça, c'était de la radio. Hein. On peut le dire, à l'époque, ça rigolait. Question numéro 3 pour vous, Clémentine. Je rappelle que pour l'instant, nous sommes dans une situation d'égalité parfaite. Comment une égalité pourrait-elle ne pas être parfaite, d'ailleurs ? Je réalise que je dis une connerie. Égalité. J'aimerais parler avec vous de décroissance, Clémentine. Selon les adeptes de cette théorie, l'industrialisation amènerait au chômage de masse, à la pollution et provoquerait l'aliénation au travail. Voilà qui est bien surprenant. Est-ce que Georges Pompidou a pu entendre parler du mot décroissance ?
Georges Pompidou est mort en 74. Est-ce qu'on en croit 74, le mot existe déjà. On est en plein dans les on est avant le choc pétrolier, avant encore dans la queue de comète des 30 glorieuses.
On s'en fout de la décroissance.
Non, mais c'est non. Pas la question, c'est pas de savoir si on s'en fout, c'est si le mot existe déjà. C'est
fait.
Ça. Et je suppose qu'il est rentré dans le dictionnaire. Probablement juste après pour que vous me posiez la question. Moi, je dirais plutôt non et que ça a dû. Je verrais ça plutôt émerger avec le premier choc pétrolier et la chasse au gaspillage et des considérations sur et l'arrivée du chômage massif. Et pour moi, c'est plus Giscard, donc vraiment dans les années qui suivent que Pompidou.
Vous dites non.
Je me lance en disant non.
Le raisonnement est logique. La réponse sera-t-elle bonne ?
Vous avez perdu.
Et non, malgré ce très beau raisonnement, vous avez perdu, Clémentine. L'ancien président de la République, Georges Pompidou, est mort en 1974, comme vous l'avez très bien rappelé. Et le mot décroissance apparaît sous la plume du journaliste André Gorz dans un article du Nouvel Observateur. Le 19 juin 1972, l'article était intitulé « La dernière chance de la Terre ».
Ah là là, 72, intéressant. Redites-moi le nom du journaliste.
André Gorz.
André Gorz.
Question numéro 4 pour vous, Stéphane. Retournons de chandelle.
Je parle de la chanson Au clair de la lune, évidemment. À l'époque des maisons closes, jusqu'au début du XXe siècle, il existait des allumettes bougies qui servaient de minuteurs et déterminaient le temps imparti pour ces messieurs, le temps qu'elles se consument. Vrai ou faux ?
C'est pas mal comme...
Stressant en même temps, on aurait l'œil rivé sur la bougie.
C'était
le minuteur. C'était
minuté
d'une manière ou d'une autre, oui. Est-ce que c'était donc une allumette bougie qui faisait office de sablier dans les bordels d'antan?
Une allumette bougie, je ne vois pas de quoi ça ressemblerait.
Moi non plus, mais nous sommes en radio, je ne peux pas vous le décrire.
Oui. Moi je sais, mais je ne peux pas vous aider parce que là vous avez un point de plus que moi. Donc, si je veux une chance de faire la dernière question.
C'est assez séduisant pour que ces demoiselles aient le temps de s'offrir à d'autres. C'est horrible.
C'est possible, ça a existé, ça ?
J'en ai jamais vu personnellement. Non, écoutez, je ne crois pas que c'est... L'idée est séduisante, entendons-nous.
C'est-à-dire, Stéphane Bern, je vais être contre les éoliennes, mais
préciser votre pensée.
Vous êtes contre les maisons closes. Vous êtes contre, d'accord.
Non, mon avis importe peu. En la matière, je n'ai aucune compétence. Je n'y suis jamais allé. En revanche... je trouverais dans un système économique, si vous voulez, pour...
Vous y verriez une certaine logique.
Il y a une certaine logique dans le système économique des maisons closes. Maintenant, je n'ai jamais vu à quoi pourrait ressembler, à cette époque, une...
Jusqu'au début du XXe.
Une bougie qui... Donc, c'est une
qui
bougie,
se consume,
en fait.
Voilà, qui se consume quand c'est fini. La bougie fait une certaine taille, elle doit durer un certain
temps. Et si on a fini
temps.
Avant que...
on a du rab ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour la prochaine fois, on repart
parce
avec sa
que
bougie.
On m'a dit que...
On vous a dit beaucoup de choses, vous connaissez bien les maisons closes. Alors...
Je serais tenté de dire oui, mais je sens que c'est un piège, donc...
Non, dites oui, c'est une très bonne idée.
Non, je dis non.
Ah, vous dites faux !
Vous avez... perdu.
Bah oui. C'est simplement des bougies avec un marqueur, si tu veux. Tu fais un repère sur la bougie et tu sais que ce 20 minutes, c'est une partie de la bougie.
Bien sûr, oui.
De toute façon, des
bougies... Mais vous teniez un établissement, vous, au début du matin ?
Moi, j'ai tout fait, moi, cher monsieur. J'ai mille vies. Mais en tout cas, ces bougies-là, elles ont été utilisées dans d'autres contextes que les maisons closes aussi. Donc,
ça me paraissait tout à fait logique et en fait, je pensais que c'était un piège. Donc j'ai dit non.
Ces bougies existaient, elles avaient une durée de 7 minutes, c'est 3 fois plus qu'il n'en faut. Question numéro 5. Pour les deux, c'est la question de rapidité, notre célèbre question 5. Jim Thorpe est un athlète qui fait partie sans conteste de l'histoire sportive des États-Unis. C'est le premier athlète amérindien à avoir donné des médailles olympiques aux États-Unis. Il s'est passé une chose étonnante lors d'une de ses courses. Mais laquelle ? 3 propositions. Il a perdu une chaussure sur une course de 100 mètres, mais il a quand même gagné. L'intégralité des concurrents d'une course a abandonné. Jim a avoué ensuite avoir fait de la magie noire. Ou on lui a volé ses chaussures avant une course. Heureusement, il en a trouvé une paire dans les poubelles.
1-3.
Et c'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui remporte le quiz. Et oui, des chaussures trouvées dans les poubelles. Jim Thorpe a gagné 2 médailles d'or en 1912 en pentathlon et en décathlon. Les chaussures qu'il a trouvées dans une poubelle étaient dépareillées. Il a utilisé une chaussette en plus car une des deux chaussures était trop grande. C'était quand même...
C'est une chose qui est arrivée, je crois, juste Fontaine dans l'une des Coupes du Monde. Il avait oublié ses chaussures et
Il les a pas prises dans une poubelle quand même.
Il les a pas prises dans une poubelle, mais on lui en a prêté une paire qui était trop grande pour lui. Et il a quand même gagné. Et je crois qu'il a dû gagner un fusil de chasse parce qu'il adorait la chasse. C'était une autre époque.
Stéphane, vous avez l'opportunité unique que je vous donne de remporter le quiz malgré tout, renverser complètement la peur si vous me donnez le nombre de buts qu'a marqué Juste Fontaine. C'est le recordman de nombre de buts dans une seule Coupe du Monde. Combien de
je crois que c'est 7 ou 9, je dirais.
9.
C'est 13 buts, quel dommage.
Quel dommage. Oui.
Quel dommage. Vous n'avez plus renversé la vapeur.
Oui, mais non, à quoi ça sert
Et vous avez même le jingle de la loose.
Ouais. Non, mais
c'est ça que vous avez
gagné.
C'est
pas vraiment de la loose si vous voulez. Perdre sur une
question, de foot de... Quel mépris.
Non, j'ai pas dit ça, mais tout le monde
le sait. Timing des prestations timing. Dans les maisons closes. Voilà, comment voulez-vous que cet innocent qui vit dans une abbaye connaisse ce genre de choses?
Bravo Clémentine.
C'est pas les mêmes bougies qu'on...
Oui, bon, ça va Stéphane, on a compris l'idée, ne nous enfonçons pas.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre et c'est déjà une bonne nouvelle parce que ça signifie que vous êtes vivant.
Or, être vivant, Stéphane, on dira ce qu'on voudra, c'est mieux que d'être mort. Nos trois personnages du jour peuvent en témoigner.
Oui, on les croyait morts, mais ils bougeaient encore.
Après François de Civil, je vous raconte l'invraisemblable histoire de Rose de Valavieille qu'on enterra alors qu'elle était non seulement toujours vivante, mais enceinte. Avouez Mathieu que vous pourrez difficilement faire mieux avec votre troisième personnage, le contemporain de l'étape.
Détrompez-vous Stéphane, j'ai mieux, j'ai Gonzalo Montoya Jiménez, qui est presque mexicain puisqu'il est espagnol. Surtout, pas moins de trois médecins l'ont déclaré mort. Il s'est réveillé juste à temps, le médecin légiste allait commencer l'autopsie.
Passez-moi les forceps.
Par où on passe?
Par voie rectale.
J'apporte le lubrifiant.
Pas le temps de lubrifier.
On a toujours le temps de lubrifier.
Ça s'est joué à très peu de choses.
Alors, eux aussi sont bien vivants. Ce sont nos célèbres chroniqueurs, David Castel-Lopez, qui nous raconte les origines d'une encyclopédie en ligne.
Tout à fait, la principale, d'ailleurs la seule qu'on puisse citer, hein, l'encyclopédie Wikipédia, comment on faisait avant, d'où ça vient, je vais vous dire tout ça.
Vous payez parfois un peu, ils nous demandent toujours de payer Wikipédia pour les aider.
Jamais.
Jamais.
Et c'est vous, donc. Est-ce que vous corrigez?
Il m'est arrivé de corriger quelques petites choses. C'est pas si laborieux que ça. Et oui, on a l'impression de faire partie de l'édifice du savoir mondial. C'est
mais
sympa.
Moi, une fois, j'ai essayé de corriger les erreurs qu'il y avait sur ma fiche Wikipédia et on m'a traité comme un hacker.
On ne peut pas s'autocorriger.
Vous avez... Bah oui, mais il y a tellement d'erreurs.
Et ben, il y a tellement d'erreurs, mais il faut demander. C'est un peu débile comme ça, mais il faut demander à un tiers de le faire à votre
place.
Vous
êtes sûr? À une époque, c'était pas ça. Moi, ils avaient mis le nom de mon fils, je l'ai fait enlever. C'est moi qui l'ai enlevé. Je n'ai pas demandé à quelqu'un, je l'ai fait moi-même. Oui.
Ah, bah c'est remarquable. Normalement, en fait, c'est très mal vu en tout cas. Je ne sais pas si c'est une règle absolue.
D'accord.
Il faut s'y rendre compte, mais c'est très mal vu.
Vous avez rajouté des diplômes que vous n'avez pas, par exemple.
Ah, ceux de Sciences Po, vous êtes d'accord, pardon. Oui, ben, je demanderai un pote la prochaine fois.
Vous avez entendu la douce voix d'Olivier Poulx, c'est une voix gourmande qui va nous parler de l'origine.
J'ai l'impression que c'est le téléphone rose.
Qu'est-ce que tu veux de la piperade?
J'aimerais bien goûter ta piperade.
Tu en auras tout à l'heure.
D'où vient la piperade? Vous allez nous raconter quand même.
Et
l'histoire.
La recette aussi.
Évidemment.
En régie, les gens sont atterrés, je crois.
Oui. C'est vrai, on les regarde. Il ne faut pas regarder de l'autre côté de la régie.
Oui, c'est ça. Oui.
Et vous savez, désormais, nous sommes autour de cette table amis jusqu'à 17h50, heure à laquelle nous devenons désormais chaque jour de véritables ennemis, le tout sous la houlette de Stéphane Bern qui nous pose des questions auxquelles nous n'avons souvent pas la réponse. C'est la lutte finale. Mais tout de suite, partons à la rencontre d'une des seules personnes de l'histoire qui peut nous dire « Oh, ton enterrement, c'est juste un mauvais moment à passer, c'est pas la mort ». Stéphane Bern nous raconte le destin de Rose de Valavieille.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Et oui Mathieu, d'autant que l'aristocrate n'a pas été enterré une fois comme le commun des mortels, ni même deux, mais bien trois fois. Nous sommes le 26 avril 1774, les cloches sonnent à tout rompre en la cathédrale Notre-Dame de la Cède à Toulon. Elles annoncent le mariage en grande pompe de deux figures de l'aristocratie locale, Laurent Bernardi de Pézenas, 32 ans, et la fille d'un procureur du roi, Rose Louise Marguerite de Valavieille, 20 ans. Le comte de Pézenas est un militaire dont la réputation n'est plus à faire. Il est le fils d'un officier de marine embarqué à 17 ans. Il s'est battu contre les Anglais pendant la guerre de 7 ans qui divise alors les puissances européennes. Sa bravoure et ses hauts faits d'armes l'ont fait capitaine des vaisseaux du roi. Aucun tableau, aucune représentation de la comtesse de Pézenas n'est parvenue jusqu'à nous. Pour tenter de nous la figurer, on peut penser aux œuvres d'Élisabeth Vigée-Lebrun qui a exactement son âge. Les modèles de la célèbre peintre de Marie-Antoinette et la jeune aristocrate toulonnaise ont sans doute le même teint frêle et même joues délicatement rehaussées de rose. Tout le monde s'accorde en effet à dire que la mariée est aussi ravissante que son prénom. Le mariage est heureux, c'est, d'après les témoins, une vraie union d'amour. Rose tombe rapidement enceinte. Tout va pour le mieux jusqu'à ce soir d'été de la même année 1774. Les jeunes époux dînent en tête à tête dans leur maison cossue de la rue Salvatore, aujourd'hui la rue des Bonnetières, dans le quartier du Port. Le délicieux repas se termine sur un fruit local et de saison, des abricots. Mais en avalant l'un d'eux, Rose avale par mégarde le noyau. Elle s'étrangle, suffoque, ne peut plus respirer. Le comte s'affole et s'agite autour d'elle, il la secoue sans bien savoir quoi faire. La manœuvre de Heimlich, vous savez ce geste précis qui sert à désobstruer les voies respiratoires, ne sera inventée que deux siècles plus tard par le médecin du même nom. Rose s'effondre au sol, morte. On imagine le désespoir de son époux. Sa vie qui s'annonçait sous de si bons auspices, ruinée et si bêtement ruinée. Effondré, il n'est pas en état d'organiser les funérailles. Elles se déroulent quelques jours plus tard dans la même église où le couple s'était marié 4 mois plus tôt. La nef est pleine à craquer. Toute la ville est venue dire un dernier adieu à la jeune femme dont la si triste histoire a bouleversé la région. Le comte, fou de douleur, s'est évanoui lors de la procession qui mène la dépouille vers sa dernière demeure au cimetière Saint-Lazare. L'histoire aurait dû s'arrêter là, et nous n'en aurions probablement jamais plus entendu parler. Mais voilà, Rose de Valavieille a été enterrée dans la plus somptueuse des tenues, parée de ses plus beaux bijoux, et notamment d'un fabuleux collier de diamants. Une information qui n'a pas échappé à l'employé des services funéraires. Le soir même, une fois la foule dispersée, le fossoyeur se glisse à l'intérieur du caveau. Il fait sauter le couvercle du cercueil. Le cadavre est bien là, son précieux collier autour du cou. Tremblant, le voleur tente de le détacher à plusieurs reprises, mais le fermoir ne cède pas. Pas question de laisser échapper un tel trésor pour si peu. Alors l'homme insiste et finit par soulever le buste de la comtesse. Étrange, elle est bien souple pour une Maccabée, se dit-il. Il la rudoie un peu pour tenter d'ouvrir enfin son collier, quand soudain la mort tressaute, elle a un haut-le-cœur et sa bouche expulse quelque chose, le noyau d'abricot incriminé. Saint-Lazare, le premier ressuscité, a fait un miracle dans le cimetière qui porte son nom. La comtesse respire. Elle est vivante et bien vivante. On ne sait pas si le croque-mort, pris de panique, s'enfuit cette nuit-là, ou bien s'il aide la jeune femme à regagner son domicile en prétextant l'avoir entendu depuis sa tombe. Ce qui est certain, c'est que le retour de la comtesse imprègne la plus grande stupeur dans la maison, bientôt mêlée d'une joie intense, surtout pour le comte, son mari. Deuxième miracle. Rose n'a pas, malgré les péripéties, perdu son bébé. 8 mois plus tard, le 12 février 1775, elle accouche d'un petit garçon, François-Xavier Joseph. Il est bien sûr baptisé dans la même cathédrale où se joue toute l'histoire familiale. Et toute la ville est à nouveau au rendez-vous pour saluer le miraculé ainsi présenté. Voici Monsieur de Pézenas qui fut enterré avant que de naître. Rose met au monde dans les années qui suivent 8 autres enfants. Mais sa vie n'est décidément pas un long fleuve tranquille. En 1789 éclate la Révolution. Toute la famille se réfugie dans une propriété du Vaucluse, située dans le village natal du comte. Mais ils sont retrouvés, arrêtés, Laurent est fusillé en 1793 en pleine terreur. Déclaré ennemi de la Révolution, Rose est incarcérée peu de temps après avec 4 de ses enfants dans la prison Sainte-Ursule à Toulon. Mais la comtesse de 40 ans était à nouveau enceinte. Elle est libérée et peut accoucher de son 10e enfant. Les dernières décennies de sa vie sont peu documentées. À peine sait-on qu'elle fait œuvre de charité auprès des nécessiteux. Rose s'éteint finalement de vieillesse à 75 ans à la Seine-sur-Mer dans le Var. Elle y est inhumée pour de bon cette fois, en cette année 1829, dans l'ancien cimetière de la ville. Mais alors, pourquoi 3 enterrements, comme je vous l'ai indiqué au début de ce récit ? Le rebondissement cette fois n'est pas à la hauteur du premier. Simplement, une dizaine d'années plus tard, la commune construit un nouveau lieu de repos pour ses morts et les restes de Rose y sont transférés. Elle est donc inhumée pour la 3e fois. La tombe s'y trouve encore et on peut y lire l'inscription suivante. Ici repose Rose Louise Marguerite de Valavieille, modèle des épouses et des mères. Elle fut toujours l'appui des malheureux. Nulle mention en revanche de son incroyable destinée et de ses précédents passage sous terre.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Rose de Valavieille, nous sommes avec celui qui est chargé de la rubrique Histoire de Var Matin, André Perraigne. Bonjour André.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Oui André Perraigne, vous êtes le directeur du Conservatoire de Nice, mais vous êtes aussi un fin connaisseur du passé local, puisque vous êtes chargé de la rubrique Histoire dans le quotidien Var Matin. Elle est tout de même invraisemblable, cette histoire de la comtesse de Valavieille ressuscitée 4 jours après s'être étouffée avec un noyau d'abricot. Est-ce qu'on a des sources de l'époque qui racontent cette histoire d'incroyable résurrection ?
C'est vrai que cette histoire est complètement invraisemblable. On n'arrive pas à la croire, mais elle tient sa crédibilité de la qualité même de celui qui l'a raconté pour la première fois. Alors, il ne l'a pas raconté à l'époque même, mais un demi-siècle plus tard, et cet écrivain était également médecin. Il s'appelait Laurent Béranger Ferraud. Et le fait qu'il était médecin, il était directeur de l'hôpital de la Marine de Toulon, donne de la crédibilité à cette histoire. Parce que si lui-même n'avait pas cru, en tant que médecin, qui aurait pu y croire ? Et c'est lui donc qui a raconté cette histoire. Et cette histoire n'a été publiée à Paris que presque un siècle après, vers la fin du 19e siècle. Alors le médecin en question, Laurent Béranger Ferraud, a interrogé les descendants de Rose de Valadière. Vous avez dit qu'elle avait eu 10 enfants, donc il y avait pas mal d'enfants et de petits-enfants. Il y avait également des descendants des témoins. Et Laurent Béranger Ferraud a rassemblé tous ces témoignages et a fait cette histoire qui a passionné la fin du 19e siècle.
Hein. Oui, parce que l'histoire ne fait pas le buzz à l'époque, parce que dans les années 1770, évidemment, il n'y avait pas encore des avis de décès dans les journaux.
Et non, il n'y avait pas d'avis de décès dans les journaux. Puis il n'y avait pas de journaux aussi. Hein. Les journaux provinciaux sont arrivés au 19e siècle. Mais à la fin du 18e siècle, il n'y avait pas de journaux en province. Donc, c'est évidemment du oui-dire. Ce sont des légendes que l'on colporte. Mais celle-ci était vraiment très belle.
Mais ça tombait à une époque aussi où justement la peur, on avait une peur qui était celle d'être enterré vivant. C'était une peur qui était très présente dans la société française. Dans la littérature, par exemple, on trouve énormément d'allusions à cette peur qu'on avait.
Ah oui, mais cette peur, tout à l'heure, vous avez dit que cette peur avait un nom, c'est la taphophobie. Effectivement, c'est la peur d'être enterré vivant. Mais il y a des personnages célèbres qui ont été atteints de taphophobie. Le plus célèbre d'entre eux est George Washington, le premier président des États-Unis, qui, au moment où il sentait qu'il allait mourir, a bien demandé à son secrétaire de vérifier qu'il était bien mort avant qu'on l'enterre. Puis il y en a un autre qui est Frédéric Chopin aussi. Frédéric Chopin a demandé à son entourage de vérifier qu'il était bien mort. Il avait même demandé d'ailleurs qu'on ouvre son corps avant de l'enterrer, ce qui fut fait d'ailleurs, puisque on sait très bien que le cœur de Frédéric Chopin se trouve à Varsovie, dans sa ville natale, enfin du moins dans son pays natal, alors qu'il est enterré lui au Père Lachaise. Alors évidemment, à cette époque-là, on était en plein romantisme, hein, au 19e siècle, lorsque cette histoire a été racontée. Et évidemment, le monde était imprégné de ces histoires de fantômes, de revenants. Vous savez, les histoires extraordinaires d'Edgar Poe. Puis c'était à l'époque où Shakespeare était revenu à la mode également. Shakespeare avec ses histoires de fantômes dans Richard III, dans Hamlet, dans Macbeth, etc. Donc tout le monde était passionné par ces histoires de revenants.
Un mot sur le cadre de cette histoire. La toile de fond, c'est la ville de Toulon, où la comtesse et son époux habitent. C'est une ville importante au XVIIIe siècle, Toulon ?
Ah oui, c'est une ville qui prend vraiment son essor au XVIIIe siècle. C'était le grand port de guerre français, le port d'où sont parties les expéditions pour l'Amérique, pour la guerre d'indépendance des États-Unis. Hein. La flotte nationale est partie de Toulon. Et donc le port prenait un grand essor. L'arsenal aussi, parce qu'on construisait des nouveaux bateaux de guerre de grande importance. Et puis il y avait également quelque chose qui était très important à Toulon. Depuis le milieu du XVIIIe siècle, c'était le bagne. Le bagne qui avait une grande importance, dont tout le monde parlait, et vous savez, dont tous les écrivains du XIXe siècle, Victor Hugo ou Alexandre Dumas ne manquaient pas la visite. Voilà, ça c'était Toulon. Et alors, évidemment, l'essor de la grande marine nationale fait qu'il y avait plein d'aristocrates qui venaient, qui étaient associés à cet essor de la grande marine nationale, dont le comte de Pesdas qui était venu s'installer à Toulon, et c'est là qu'il s'est marié avec notre chère Rose.
Alors, je l'ai raconté, la vie de la comtesse n'a pas été de tourpeau, parce qu'après avoir été enterrée vivante une première fois, elle se retrouve derrière les barreaux à la Révolution. Au fond, qu'est-ce qui s'est passé à Toulon pendant la Révolution ?
Ce qui s'est passé. Hein. Vous savez que Toulon donc était le siège de beaucoup de royalistes qui voulaient mettre dehors les révolutionnaires. Et en 1793, au moment où la comtesse de Valadière, de Valavieille a été incarcérée à Toulon, a eu lieu le fameux siège de Toulon. Les royalistes ont fait appel à la marine anglaise pour chasser les révolutionnaires. Et cette opération a été conduite à l'époque l'échec à cause d'un personnage très important qui a commencé sa carrière à Toulon en 1793. C'était un capitaine nommé Bonaparte et qui a mis dehors les Anglais de Toulon en 1793. Et c'est là qu'il est devenu général et c'est là que sa carrière a commencé.
Ben voilà, merci André Perregne. Je rappelle qu'on peut lire vos récits historiques tous les samedis dans Var Matin et c'est passionnant.
Var Matin et Nice Matin aussi, puisque c'est le même groupe.
Ah oui, mais oui, c'est à Total, oui. Mais là, c'est vrai qu'on était concentré sur Toulon.
Et, ah oui, et la Seine.
Et la Seine, voilà. Merci à vous,
merci
André
beaucoup.
Perregne.
Au revoir, à bientôt.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque de drôles d'histoires. Celles de ces personnes qu'on croyait mortes, mais qui bougeaient encore. Après François de Civil et Rose de Valavieille, vous nous brossez, Mathieu, le portrait exceptionnellement à 100% vrai, l'histoire est suffisamment dingue comme ça, d'un homme déclaré mort, non pas une, non pas deux, mais trois fois.
Oui, Stéphane. Un, dos, tres, c'est comme ça que ses amis surnomment désormais Gonzalo Montoya Jiménez, un garçon qui n'aimait pas la vie, mais que la vie, elle, adorait. Une histoire dingue qui ne nécessitera aucun des artifices sonores que vous avez l'habitude d'utiliser, Stéphane, pour conférer à vos récits un suspense artificiel.
Que s'est-il passé ? Je vais tout vous raconter.
C'est fait avec talent, mais là, c'est inutile. Le scénario est à peine croyable, vous l'avez d'ores et déjà compris, nous sommes en Espagne. Le type s'appelle Gonzalo, et vous devinez ce qui va lui arriver ?
Un accident de merguez.
Non, Stéphane, souvenez-vous, notre thématique du jour, il va ressusciter, resucitado. Depuis des années, Gonzalo souffre de dépression. Il n'est certes pas le seul.
Quelquefois, chez moi, tout seul, je me fais un plat lyophilisé.
Mais lui, contrairement à David, il ne possède pas de thunes. Il n'est pas à l'aise financièrement. Pire, il est en tôle pour diverses affaires de vol. Début 2018, il en est déjà à sa deuxième tentative de suicide. Chaque soir, le pauvre bougre utilise son crédit téléphonique pour appeler sa femme un peu et sa maman, surtout, avec laquelle il s'épanche. Alors, vous doutez bien que j'ai pas accès au enregistrement des vraies conversations, secret d'instruction oblige, mais ça devait certainement ressembler à ça. Gonzalo a donc tenté par deux fois déjà de mettre fin à ses jours. La première fois avec une corde, on n'est jamais très original dans ces moments-là. Heureusement ou hélas, l'un de ses codétenus le surprend en train de pendouiller. Que pasa, madre de Dios? Rapido, rapido, Gonzalo pendouillado! Gonzalo est sauvé, mais quelques mois plus tard, il remet ça en essayant de se taillader les veines. Cette fois, c'est un gardien qui intervient. Rapido, rapido, el cabrón de Gonzalo tallado los venas! Quand ça veut pas, ça veut pas. Cuando ne volando. Bref. Le 6 janvier 2018, encore et toujours déçu par les prestations hôtelières de sa prison, Gonzalo tente cette fois une autre option, la surdose de médicaments. Cette fois, il en est sûr, c'est la bonne. Il en a fini avec ce monde cruel. Il aimait un dernier râle comparable à celui qu'aimait David au moment de l'orgasme.
Ah.
À peu près ça. Il sera retrouvé le lendemain matin, inconscient sur une chaise. Está muerto, Gonzalo, vamos a comer. Il est mort, Gonzalo, allons bouffer, il y a de la brandade à la cantine. C'est ce que dira le premier des trois médecins légistes, visiblement moyennement qualifiés, qui ausculteront tour à tour le détenu. Par acquis de conscience, sachant que son confrère a la fâcheuse manie de s'attaquer à la sangria dès le matin, un deuxième médecin se penche sur ce qu'on pense alors être la dépouille de Gonzalo. Pas de doute, il est clamsé, allons à la cantine, il y a de la tortilla en entrée. Mais vous connaissez le corps médical espagnol, Stéphane, zélé, est toujours en quête de perfection. C'est pourquoi, oui, un troisième médecin va quand même revérifier au cas où. C'est le plus capé des trois. Il est formel, le type est dead, on peut aller se restaurer tranquillo. Et nos trois docteurs de se diriger vers la cantine, l'appétit aiguisé par le doux sentiment du travail accompli, échangeant des réflexions de médecins telles qu'on peut facilement les imaginer.
Alors on s'épile, ça vaut la peine parce qu'on va pécho.
Pendant que nos champions déjeunent et s'épilent en vue de leur samedi soir, Gonzalo, lui, est soigneusement empaqueté puis conduit à la morgue pour une autopsie. Après la pause déj, une fois les patatas bravas digérées, donc aux alentours de 16h30, les médecins se retrouvent autour de la table d'autopsie où Gonzalo les attend. Il n'a pas bougé, normal, puisqu'il est mort. Les médecins se disent que quand même, ils font un métier rigolo puisque c'est le moment où il faut dessiner sur Gonzalo tout plein de lignes au feutre afin de tracer le parcours du scalpel. Mucho rigolo, c'est comme un exercice de passeport pour le CE2. Relie les points ci-dessous au feutre afin de découvrir quel animal vit dans la mer des Caraïbes. Hélas, la suite est moins rigolote pour les médecins puisque très vite, ils entendent un grognement bizarre. Serait-ce l'un d'entre eux qui a du mal à digérer les patatas bravas ? Non, madre de Dios, que bordello ! Ce sont bien des ronflements qui émanent du sac. Mais alors, si le mort ronfle, c'est qu'il n'est pas mort. La suite est quasiment aussi flippante qu'une reprise de thriller en espagnol.
Ce qui entre nous n'est pas peu dire, ça vous donne une idée du niveau d'horreur. En effet, Gonzalo va extraire ses mains du sac mortuaire et les agiter sous l'œil médusé des légistes qui seront, je cite, c'est savoureux, très étonnés de voir qu'il était conscient et qu'il avait de graves difficultés à respirer. Ah bon ? Il respirait mal dans un sac poubelle après avoir passé 4 heures à la morgue ? C'est étonnant. Petite nature ce Gonzalo, certainement un asthmatique. Le miraculé est immédiatement transféré vers un hôpital universitaire où par chance, il rencontre enfin de vrais médecins qui vont réussir à le sauver, car il est malgré tout très mal en point, notamment parce qu'il a chopé une pneumonie lors de son passage dans la chambre froide. Comment tout ça a-t-il pu arriver ? Son corps aurait présenté, selon les médecins, des signes de cyanose, diagnostiqués notamment grâce à l'aspect bleuté de sa peau. Mais cette petite bourde médicale pourrait être aussi un cas de catalepsie incroyablement long, la catalepsie étant, je cite, un état de transe ou de convulsion caractérisé par une perte de conscience et de sensation, ainsi que par une rigidité physique. C'est ce qu'on appelle aussi faire une David Castello-Lopez en fin de soirée. La catalepsie, c'est la suspension complète du mouvement volontaire des muscles. Un patient peut rester des heures dans une même position en donnant l'impression d'être mort, en somme comme un enfant que vous avez placé devant Netflix avec une brique de jus de pomme. Alors, je tiens à préciser que le diagnostic en question vient en partie des mêmes médecins qui l'avaient annoncé mort. Donc, on peut se dire qu'on ne saura vraiment jamais ce qui s'est passé. Le faux mort souffrait aussi d'épilepsie et il n'était pas toujours facile pour lui de suivre correctement son traitement en prison. Ça aussi, ça pourrait avoir joué, ajoute l'un des médecins, toujours aussi précis. Vous serez étonné d'apprendre que Gonzalo et sa famille décident de poursuivre la prison en justice.
Quel culot !
Quel culot aussi ! Les procéduriers, ça je déteste ça moi aussi Stéphane. La famille parle de faute professionnelle du corps médical pénitentiaire, tout de suite les grands mots. Son avocat déclare « un simple électrocardiogramme aurait immédiatement écarté le décès allégué et aurait permis une assistance médicale médical rapide pour éviter tous les dommages physiques et moraux graves qui lui ont été causés ainsi qu'à sa famille. L'occasion pour Gonzalo de demander une réduction de peine, car oui, cette expérience a été pour lui un véritable électrochoc. Désormais, il le dit sans détour, comme Olivier Pouls quand on lui apporte le plateau de la farandole des desserts.
J'aime la vie.
Il aime la vie, il aime la liberté, il y goûtera l'espace de quelques mois sa libération avant d'être hélas à nouveau arrêté en janvier 2019 pour un vieux cambriolage. Il n'a même pas obtenu l'indemnité de 50 000 euros qu'il avait réclamé au nom du préjudice physique et psychologique. Bref, morale de l'histoire, quand vous tentez de mourir, que ni la pendaison, ni l'ouverture des veines, ni les médocs n'ont marché...
Ça donne envie de se faire guillotiner.
Non David, ça donne envie de renoncer à ses projets suicidaires et de vivre, vivre la vie follement, comme le disait le poète Cervantes... Ou Ricky Martin, je ne sais plus, l'un des deux, car n'oubliez jamais la devise de Stéphane.
On vit tant qu'on est vivant.
Il faut en profiter.
Merci Mathieu. Alors là, c'était 100% vrai.
Mais
c'est totalement faux.
Et ça, c'est un peu plus sourcé que vos histoires de comtesse du 18e où on a pu trafiquer un peu a posteriori. Là, ça s'est passé quasiment aujourd'hui.
Oui. M'envoyer toujours en tôle.
Oui, ça ne change pas grand-chose pour lui. Oui. Sauf que maintenant, il n'essaye plus de se suicider.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire adieu à nos personnages du jour.
Ah, plutôt au revoir Stéphane, avec on ne sait jamais. Hein. Mmh. Nous entrons dans la dernière demi-heure d'Historiquement Vôtre, celle de tous les possibles, puisque je rappelle que, dans des circonstances troubles qu'il faudra un jour éclaircir, David Castello-Lopez mène au score dans notre nouveau jeu, La Lutte Finale, qui, comme son nom l'indique, interviendra à la toute fin de notre émission. Avant cela, on se reconnecte avec notre quotidien. Olivier Pouls, vous nous racontez l'histoire d'une recette.
Je vais vous parler de la piperade dans un instant. Vous dire qu'il y a une petite incertitude sur l'origine exacte.
C'est le sud-ouest, la piperade.
Oui, c'est le sud-ouest. Ah, mais alors, qui, des Béarnais ou des Basques? Et puis, surtout, il y a un petit débat aussi sur ce qui la compose exactement. Et je trancherai tout ça.
Pas de débat, en revanche, pour savoir qui a créé Wikipédia. David Castello-Lopez a la réponse.
Ici, Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
On l'a dit souvent, Mathieu, vous et moi, on est de la même génération. Même si vous aimez rappeler que vous avez un an de moins que moi et que vous occupez pourtant une position hiérarchique supérieure à la mienne. Ce qui est vrai, certes, mais j'ai envie de répondre, c'est vrai pour Europe 1. Car devant Dieu, Mathieu, dans cette hiérarchie du salut qui est la seule qui compte, je pense que c'est une autre histoire. On est de la même génération, donc, et cette génération, c'est la dernière à avoir fait ses études sans Wikipédia. La dernière génération à avoir fait ses devoirs à la maison en utilisant de vraies encyclopédies. Ces encyclopédies qui non seulement coûtaient 3000 balles, qui pesaient 20 kilos, mais qui en plus se périmaient à la vitesse de l'éclair. Et donc, il fallait racheter des éditions. Mais heureusement aujourd'hui, il y a Wikipédia qui a l'avantage d'être gratuite, mise à jour quotidiennement et surtout de couvrir une quantité de sujets inédite dans l'histoire de l'humanité. Je veux dire, si vous cherchez Mathieu Noël dans l'encyclopédie Universalis, vous trouverez que dalle. Sur Wikipédia, il y a 3 pages sur vous. Il y en a 15 sur Stéphane Bern. Il y en a 5, je crois, sur Clémentine Portier-Kaltenbach. Il y en a pas vraiment sur vous, Olivier Pouls. Mais
si,
je
c'est
pense...
le Wikipédia belge.
Oui, voilà. On pourra remédier à ça très bientôt. En gros, ça fait 3000 volumes, rien que le Wikipédia anglais. C'est 100 fois plus que l'encyclopédie Britannica. C'est énorme. Alors, la préhistoire de Wikipédia, c'est une autre encyclopédie en ligne qui s'appelait Nupédia à la fin des années 90. Nupédia, c'était une encyclopédie qui avait une partie des caractéristiques de Wikipédia. C'était en ligne et c'était gratuit. Mais elle avait surtout une différence majeure, c'est que ce n'était pas une encyclopédie collaborative. Du point de vue du contenu, c'était une encyclopédie classique avec des spécialistes qui écrivaient des trucs qui étaient vérifiés par d'autres spécialistes. Et puis, à la fin des années 2000, le fondateur de Nupédia, Jimmy Wales, il s'est dit que ça marcherait jamais. Et avec un ami à lui, philosophe, ils se sont dit « En fait, ce serait bien qu'on trouve un système où tout le monde puisse contribuer facilement. » Et ils ont décidé d'utiliser un wiki. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire au départ, wiki, et en quelle langue?
Wiki.
Oui. C'est un mot.
C'est néo-zélandais.
C'est pas néo-zélandais, mais c'est une île également. Ouais. C'est un mot hawaïen.
Ah, voilà.
Qui veut dire en gros rapide. Et appliqué à l'informatique, c'est un logiciel qui permet à plein de gens de collaborer facilement et rapidement. Et en janvier 2001, vous aviez 18 ans, Mathieu, et j'en avais 19. Wikipédia a été mis en ligne, contraction de wiki et de encyclopédia. Et ça a eu un succès pratiquement tout de suite, en partie parce que ses fondateurs ont mis en place un protocole, le protocole dit du NPOV, le Neutral Point of View, en français le point de vue neutre. L'idée du Neutral Point of View, c'est d'évacuer le fait de savoir si la vérité absolue existe ou pas, parce que ça c'est trop compliqué comme question. Et à la place, on se met d'accord collectivement sur ce qu'on dit à l'échelle du monde entier et en se vérifiant les uns les autres et bien sûr en mettant l'accent sur les faits. Et c'est assez remarquable de voir que ce système, ça marche pas si mal. Si vous regardez la page du sujet le plus controversé du monde, à savoir, c'est quoi le sujet le plus controversé? Non.
Le vaccin.
En ce moment, oui, mais disons.
Les extraterrestres.
Le conflit israélo-palestinien. Ah, je pense que c'est quand même le sujet le plus controversé du monde. Eh bien, franchement, c'est remarquablement équilibré.
C'est équilibré.
C'est-à-dire que tout le monde se bat un petit peu, mais il y a des modérateurs, et dans l'ensemble, c'est équilibré. Alors, bien sûr, Wikipédia, par rapport à une encyclopédie normale, ça a ses défauts. Il y a des petits malins, parfois, qui écrivent des articles entiers sur des gens qui n'existent pas. Et ces articles, ils peuvent rester en ligne très très longtemps. Pendant 14 ans et 10 mois, par exemple, entre 2006 et 2021, il y a eu un article sur Wikipédia qui racontait la vie d'un cheikh égyptien connu pour ses positions anti-américaines et grand défenseur du djihad en Occident. Ce cheikh, il s'appelait Abu Ali Yurbouti, plus connu sous le nom de Cheikh Yurbouti. Autant vous dire que le Cheikh Yurbouti n'a jamais existé. Puisque
ça, j'aurais pu vous le dire.
Mais c'était bien fait. C'est-à-dire que c'était un chèque, mais ce n'était pas au même endroit, donc il n'y avait pas marqué Cheikh Yurbouti, machin. Et voilà, parce que Cheikh Yurbouti, bien sûr, c'est un jeu de mots qui veut dire secoue tes fesses en anglais. Et puis, malheureusement, Wikipédia est utilisé aussi pour copier-coller par plein de collégiens, auxquels on peut pardonner quand même parce qu'ils sont jeunes. Mais c'est aussi utilisé en copier-coller par plein de journalistes en mars 2009, par exemple, il y a un petit malin qui s'est amusé à écrire sur la page d'un musicien d'Hollywood qui venait de mourir une citation complètement inventée, mais dont il savait qu'elle plairait à tous les journalistes pressés d'écrire leur nécrologie. Résultat, la situation, elle a été imprimée dans la nécrologie de ce monsieur dans tous les journaux du monde. Et là-dessus, Jimmy Wales, il dit quelque chose, le fondateur de Wikipédia, il dit quelque chose de très juste. Il dit « Wikipédia, c'est parfait comme point de départ pour commencer ses recherches pour tout le monde, mais finir ses recherches avec Wikipédia, c'est inadmissible si vous avez plus de 13 ans. Voilà. » Alors, je voudrais finir par un petit cadeau que je fais à toute l'équipe de Historiquement Vôtre et aussi aux auditeurs. Je vous invite à prendre votre smartphone et à taper dans Google « Historiquement Vôtre Wiki ». Je vous propose de le faire maintenant. Aussi, vous pouvez le faire chez vous aussi. Historiquement votre wiki. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver la page Wikipédia.
J'ai fait une faute, j'ai tapé historiquement votre Dicky et j'ai trouvé d'autres images.
J'ai trouvé historiquement votre Wikipédia. Une émission de radio quotidienne consacrée à l'histoire sur Europe 1.
Exactement. L'émission est à présent sur Wikipédia. C'est moi qui ai écrit cet article. L'émission est à présent sur Wikipédia pour toujours. J'ai vraiment été tenté d'y écrire des choses fausses. Par exemple, le fait qu'il y avait un sondage des auditeurs qui m'avait désigné comme le collaborateur le plus classe de l'émission. Mais je me suis retenu parce que ça, dans le monde de Wikipédia, ça s'appelle du vandalisme.
On a pas le droit.
Et c'est très très mal vu. Voilà,
c'est bien. Vous avez su.
Par contre, je suis allé sur votre page, du coup, ça renvoie à votre page.
Oui.
Et vous avez mis une photo chelou.
Ce n'est pas moi qui l'ai mise. Hein.
Changer d'urgence cette photo.
Je crois que c'est une photo que j'ai mise sur Instagram et qui a été reprise dans un autre article et où je montre un poisson en porcelaine.
Parce
portugais.
Que vous êtes beau gosse dans la vie et là,
vous l'êtes moins visiblement sur cette photo.
Ouais, j'ai un visage très mobile et ça me nuit parfois.
Bah oui, mais je la sortirai cette excuse. Oui, j'ai un visage très mobile, donc je ne suis
mais
pas
vous êtes laid.
Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Merci beaucoup.
J'ai une amie qui a, dont les beaux enfants, on parlait de Blanche-Neige tout à l'heure, c'est une sorte de. On fait sa fiche Wikipédia. Donc, cette jeune femme a épousé leur père, qui a fini par mourir. Elle dit, ils se marièrent et eurent beaucoup de chiens. Elle a écrit ça, c'est horrible.
Il y a des gens qui
se vengent sur Wikipédia.
Mais oui.
C'est une bonne idée. Très belle idée. On vous la lance.
Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo. Alors, sur YouTube, sur Dailymotion. Et évidemment sur le site europe1.fr.
Où votre photo est beaucoup mieux. Je tiens à le préciser.
Oui.
Historiquement votre continue. Ça y est, Olivier Pouls a fait un tour sur Wikipédia. Il connaît maintenant l'histoire de la piperade.
Ah, je la connais, mais je n'ai pas tout à fait tranché. Parce qu'une fois encore, il va falloir décider, choisir un camp. D'où vient la piperade ?
Alors, moi, c'est le Béarn.
Vous l'avez compris. Tout le monde ne s'accorde pas. Hein. Donc, Pays Basque ou Béarn. Alors, écoutons les plaidoiries des deux parties. Alors, pour les Béarnais, c'est simple. Hein. Ils font valoir que la piperade est issue du mot piperada, qui en Béarnais signifie « plat au piment ». Il faut dire que ça colle, c'est assez implacable.
Mais on n'a pas besoin de faire l'autre hypothèse.
Mais les Basques, ils ont d'autres arguments étymologiques. Ils disent que piperade viendrait de piper, poivre en latin, qui est devenu piment en basque. Donc les deux, pour l'instant, se tiennent. Alors il y a une définition qui est donnée par le Larousse. Après de tomates et de poivrons cuits avec des oignons mêlés à des œufs brouillés et servis avec du jambon de Bayonne. Alors ça, origine basque, disent-ils. Alors ça met l'eau à la bouche, mais ça pose un vrai problème, c'est celui des ingrédients. Car dans l'authentique piperade, il n'y a pas de poivron. À l'origine,
tu disais tout à l'heure que le conflit israélo-palestinien, c'est des salles de débat. Dans le monde de Pouls, c'est la piperade. Fous des poivrons dans la piperade, là, ça part en couille, hein, le débat.
Et parfois, les débats sur la cuisine sont très, très chauds. Je peux vous garantir que, notamment sur la salade niçoise ou ce genre de choses-là, si vous faites une petite erreur, vous êtes correctionné immédiatement.
On se prend des clés de bras, oui, c'est ça.
Exactement. À l'origine, le plat se composait de vieux pain ramolli à l'eau, de graisse de porc, d'oignons, d'ail et de piment. C'était un plat très populaire, très paysan. Les tomates sont arrivées un peu plus tard et les poivrons n'y figuraient pas. Les poivrons probablement ont remplacé le piment à un moment, tout simplement parce que les poivrons sont un peu plus doux et que parfois le piment, quand vous forcez et que vous avez des piments qui arrachent un peu, si vous forcez là-dessus, le plat devient totalement immangeable. Alors c'est un plat au départ qui était un plat complet et aujourd'hui la piperade est plutôt un accompagnement qu'on peut d'ailleurs servir avec des œufs brouillés, du jambon de Bayonne, ça marche extrêmement bien. Et si vous voulez la recette d'une piperade facile, rapide à réaliser ce soir, je vous la donne tout de suite. Alors des piments, 3 piments doux verts, 1 kg de tomates, 2 oignons, une gousse d'ail, un peu d'huile d'olive, une branche de thym, du sel et du poivre. Alors c'est très facile à réaliser, on va couper tous ces petits ingrédients en morceaux, on va commencer par faire revenir les oignons qu'on va légèrement faire fondre, on va rajouter ensuite les piments, on va rajouter la gousse d'ail, les tomates, un petit trait d'huile d'olive, la branche de thym, on laisse mijoter tranquillement tout ça pendant une bonne vingtaine de minutes. Il faut que tous les ingrédients soient bien fondants, garder un petit peu de texture quand même. C'est un peu la version de ce que les Méditerranéens ont lorsqu'ils font une ratatouille. Hein. C'est un petit peu la ratatouille basque.
Oui, mais ce qui manque à la ratatouille, c'est les œufs.
Et alors voilà, à côté, vous faites une petite brouillade d'œufs, quelques tranches de jambon de Bayonne, et voilà, vous avez une authentique piperade basque ou béarnaise. Ça, c'est vous qui tranchez.
Piperade béarnaise, on le notera pour Wikipédia. Merci Olivier, on peut retrouver toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr. J'en ai une bonne pour vous. Un Belge, un Suisse et un Portugais sont dans un studio. Ils participent à un concours de culture générale. Sachant que sorti de ses casseroles, le Belge connaît rien et que le Portugais triche sur Wikipédia, qui mérite de remporter le quiz ? Merci. C'est l'heure de la lutte finale.
La lutte finale, c'est une bataille entre Olivier, Mathieu et David pour savoir qui des trois est le plus doué en histoire ?
Le moins nul.
Oui, alors, une question pour chacun et une pour départager à la fin. C'est parti. Olivier, on commence par vous, c'est la tradition maintenant. Charles de Gaulle a fait Saint-Cyr, la célèbre école militaire. Déjà, il ne lâchait rien. Ses camarades le surnommaient le chacal. C'est vrai ou c'est faux ?
Oh, probablement oui, ça colle assez bien avec le personnage. Oui, je pense pas qu'il ait changé comme ça au cours de sa vie. Oui, je suis d'accord.
Je crois pas qu'en 1910, on dise chacal pour dire
chacal. On le surnommait le dindon. À cause d'un physique très particulier, on le surnommait aussi la grande asperge.
Ah ouais.
Ah oui.
C'est pas le chacal.
C'est plutôt moi là.
C'était fun. Alors, David,
vous êtes déjà éliminé.
David Casillas-Lopez. Maintenant que vous savez que Victor Hugo habitait dans l'avenue Victor Hugo,
il a eu beaucoup de mal à comprendre. Beaucoup de mal.
Apprenez, mon cher David, que Bourville a passé son enfance dans la ville de Bourville. C'est vrai ou c'est faux ?
C'est faux.
Non.
mais vous pouvez pas mettre des vrais candidats qui, parce que si je suis seul à jouer en fait, bon, c'est trop facile.
Bourville, de son vrai nom André Robert Rimbourg, est né en Seine-Maritime en 1917. Il passera son enfance à Bourville de Zelle, à l'est de Fécamp. 302 personnes vivent actuellement dans ce petit village. Attendez, non, on me dit dans l'oreillette 301 depuis cette nuit.
Quelle précision. Et de Funès, je venais d'un village qui s'appelait Funès. Bien sûr, tout le monde le sait.
Alors, Mathieu.
Oui, je suis prêt.
Si je suis Batman, êtes un peu mon Robin. Robin, vous savez, c'est le second de Batman.
C'est très bien avec le
cyber. Ce personnage de BD est né en 1940. Eh bien, la preuve existe aujourd'hui. Robin est gay. C'est vrai ou c'est faux? C'est une question d'histoire. Vous voulez une question d'histoire? La voilà.
On a réussi à faire un quiz encore plus con que Burn to Be Alive. Alors, est-ce que Robin est gay? Et la preuve en a été apportée. Alors, Robin est gay, moi, ça a toujours été effectivement ma conviction profonde, j'ai envie de dire. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelques allusions qui sont assez claires dans toute l'histoire de Batman. Mais est-ce qu'on en a la preuve? Écoutez, si vous me posez la question, maintenant, je ne vois pas l'intérêt de... Oui, la preuve a été apportée, Robin est gay.
Ah là là.
Ah oui! Oh oui, j'ai gagné!
Pendant longtemps, il y avait ambiguïté. Mais en août dernier, dans le sixième tome de la BD Batman Urban Legend, Robin flirte avec un homme. Pour l'instant, c'est juste une bulle dans une case. Mais c'est un grand pas pour l'humanité.
Ça, c'est de l'histoire. Voilà. Eh bien, voilà. En tout cas.
Eh bien, c'est vous qui remportez la lutte finale.
Je vous remercie Noël de le signaler. Merci à tous. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. Stéphane, maintenant que vous êtes un acteur reconnu, vous pouvez me faire la mort d'Historiquement Vôtre. Mais si nous mourons, c'est comme nos personnages du jour pour mieux renaître demain, évidemment.
Ah oui. Heureusement, Mathieu, demain, on réunit trois personnages qui ont fait de la monnaie, qui en ont réellement créé, hein. Crésus, Louis XIII, et c'est Louis d'or.
Et Satoshi Nakamoto, vous ne le connaissez pas, en même temps, il n'existe pas. Mais derrière ce pseudo se cache celui, ou peut-être même ceux, qui ont inventé le Bitcoin.
Ah oui, la monnaie virtuelle.
On ne peut rien vous cacher, Stéphane.
Je sais tout, vous le savez. Et vous le verrez encore demain, alors à demain, Mathieu. À demain, chers auditeurs.
À demain, Stéphane. À demain, les amis. À suivre, c'est votre nouveau rendez-vous d'info. C'est la première de Punchline avec Laurence Ferrari.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.